trouverait sûrement des bonnes excuses pour justifier son régime alimentaire, c'est-à-dire trouverait certainement des bonnes excuses pour expliquer pourquoi il doit tuer des gens pour survivre. Et d'une certaine manière, d'un point de vue purement brutal et cynique, je pense que ce qui se passe en Afghanistan en ce moment, c'est la même chose. C'est-à-dire que les autorités politiques et militaires du pays ont décidé d'envoyer l'armée canadienne en Afghanistan avec d'autres armées occidentales. Et puis après, c'est pas moi qui le dis, de toute façon, on a juste à retourner dans les discours des années 2001-2002, c'est après, en fait, que les justifications humanitaires arrivent. Les justifications pour la guerre fonctionnent sur une sorte de, ce que j'appellerais, la rhétorique qui tue. C'est-à-dire que les gens qui sont pour la guerre, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi ils sont pour la guerre, les gens qui sont pour la guerre ont tendance à dire aux gens qui sont contre la guerre, à poser une question aux gens qui sont contre la guerre, et si les gens qui sont contre la guerre n'ont pas la solution pour sauver l'Afghanistan, pour émanciper les femmes afghanes, construire des écoles, établir la démocratie là-bas, etc., on dirait qu'à tout coup, ça vient justifier la guerre. C'est comme une justification par défaut. Les pacifistes ne savent pas quoi faire de l'Afghanistan, donc on est justifié d'être militairement présent en Afghanistan. Et évidemment qu'on n'arrive pas à avoir de réponse pragmatique sur quoi faire en Afghanistan pour les femmes, les écoles, la démocratie, l'opium, etc. Et qu'on est quand même contre la guerre, les militaristes vont nous traiter de naïfs. Moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, c'est les militaristes qui sont naïfs, qui pensent en fait qu'ils vont par les armes réussir à régler, à pacifier l'Afghanistan, un pays qui n'a jamais été pacifié depuis 150 ans. Donc, quels sont les 5-6 grands arguments pour la guerre? En principe, vous devez les connaître si vous écoutez un peu la télé, vous avez les journaux ou en discuter. Évidemment, la première, et c'est un peu chronologique aussi, ça a été vaincre le terrorisme. Et donc, disons, par ricochet, protéger la population canadienne ou française ou américaine, selon où on est, d'éventuelles attaques terroristes dans le métro de Montréal ou dans un parc public à Sherbrooke, disons. Vaincre les talibans. Souvent, c'est lié. Donc, vaincre les terroristes, Al-Qaïda, vous savez, Oussama Ben Laden, qu'on cherche encore, ou les talibans. Instaurer et protéger la démocratie. Donc, déjà, on est quelques mois plus tard. En Afghanistan, instaurer et protéger la démocratie. Donc, ça, c'est le président Karzai, vous savez, celui qui n'a pas de barbe, qui est tout le temps souriant et bien habillé, contrairement à nos ennemis qui, eux, ont des barbes et qui sont habillés de façon étrange et qui sourient jamais. Émanciper les femmes, construire des écoles. Évidemment, en tant que professeur, construire des écoles, pour moi, ça me semble tout à fait pertinent. À l'UQAM, d'ailleurs, on y arrive fond de la difficulté, mais c'est quand même un noble idéal. Évidemment, une certaine solidarité avec nos soldats, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus critiquer la guerre parce qu'on critique nos soldats. Or, nos soldats sacrifient leur vie ou sacrifient des membres ou leurs camarades. Et donc, il faut être solidaire avec nos soldats parce qu'ils défendent nos valeurs en Afghanistan. Et finalement, évidemment, le dernier argument, c'est, même si tous ces arguments-là, finalement, sont pas bons, dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas partir, on ne peut pas partir d'Afghanistan parce que la situation serait pire. Donc, vaincre le terrorisme. Je vais les reprendre un par un en essayant de les, disons, de nuancer ces justifications ou en tout cas de montrer certaines incohérences ou pourquoi elles ne me convainquent pas. Et il y a évidemment différentes façons d'aborder chacun de ces problèmes. Vaincre le terrorisme, qui est en fait une justification très proche de vaincre les talibans, est problématique. C'est une justification qui est problématique de plusieurs façons, mais disons aussi, mais on pourrait dire de façon morale ou de façon philosophique, mais aussi de façon, je dirais, simplement militaire, si on remarque, si on constate qu'est-ce qui se passe depuis un ou deux ans sur le terrain en Afghanistan. C'est-à-dire que l'objectif, après le 11 septembre 2001, d'aller en Afghanistan, et ça, c'est des documents tout à fait officiels et très straight qui le disent, comme la commission du 11 septembre du Congrès des États-Unis, dit, les décideurs de la Maison-Blanche, à Washington, ont décidé à peu près 24-48 heures après l'attaque du 11 septembre d'attaquer l'Afghanistan. C'était l'Afghanistan qu'ils avaient dans la ligne de mire, ils se sont dit, on va attaquer l'Afghanistan. Et dans les jours qui suivent, en fait, ils font une tournée de diplomatique et ils réussissent rapidement à avoir à peu près une cinquantaine de pays qui appuient cette opération militaire, dont le Canada, ce qu'on a tendance un peu à oublier. Et la guerre contre l'Afghanistan va commencer le 7 octobre 2001. Donc, ça prend même pas, en fait, un mois, 11 septembre, 7 octobre, ça prend même pas un mois avant que la plus grosse armée du monde se mette en branle avec des alliés et attaque l'Afghanistan, qui est un des pays les plus pauvres du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le Canada est déjà dans cette coalition-là. À l'époque, c'est Jean Chrétien. Jean Chrétien, le 8 octobre, fait une conférence de presse pour informer la population canadienne que l'armée canadienne va participer à cette guerre. Au début, en envoyant 2000 marins et des bateaux là, dans le golfe Persique et un peu autour pour aider à l'approvisionnement des troupes. Et puis en janvier 2002, c'est à peu près 700 à 800 soldats de l'armée de terre canadienne qui vont se battre dans le sud de l'Afghanistan avec les Marines américains. Et donc très rapidement, on est dans des opérations de combat. L'utilisation de la violence pour terroriser des ennemis politiques et principalement en fait le ciblage de civils pour terroriser des ennemis politiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, l'armée canadienne et l'armée des États-Unis et les Alliés ne combattent pas le terrorisme. On pourrait dire de façon cynique qu'en fait, ils font du terrorisme eux-mêmes. En fait, il y a eu beaucoup plus de bombes, okay, des Alliés, de la coalition qui ont explosé en Afghanistan que d'attentats de suicide, les fameux kamikazes. En fait, il y a même plus de munitions utilisées par la coalition occidentale, dont des bombes, utilisées en Afghanistan qu'en Irak en ce moment, depuis 2007. C'est en moyenne, en fait, 10 bombes par jour que la coalition menée par les États-Unis font exploser en Afghanistan. Et comme on le voit de plus en plus, mais évidemment, les informations sont difficiles à obtenir parce qu'il y a plusieurs secteurs de l'Afghanistan qui sont probablement coupés du monde. Mais évidemment, le nombre de civils victimes, c'est-à-dire soit morts, soit blessés, augmente régulièrement d'année en année. Et les actions des talibans, les actions militaires, sont en hausse de façon tout à fait exponentielle. En Afghanistan, où ils tuent les Occidentaux, puisqu'on leur a fait le cadeau d'emmener les Occidentaux directement chez eux, donc maintenant ils n'ont plus besoin de détourner des avions, ils sont juste à nous tuer sur place. Mais surtout aussi, évidemment, au Pakistan, qui est complètement déstabilisé, je ne rentrerai pas dans les détails du Pakistan, là, mais qui est complètement déstabilisé suite à cette intervention étrangère. En un an seulement, au Pakistan, on parle d'à peu près 1300 morts liés à des attaques terroristes. Totalitaires, arbitraires, etc., etc. Si on nous dit ça, c'est-à-dire si on nous dit que les talibans étaient un régime tout à fait épouvantable, et donc on justifie la guerre qu'on mène en Afghanistan par l'obligation morale, l'obligation humanitaire et l'obligation politique du Canada, de la population canadienne et de l'armée canadienne de combattre des régimes aussi épouvantables, alors pour être cohérent en termes de politique étrangère et de politique militaire, il faudrait demain matin qu'on attaque l'Arabie saoudite, qu'on attaque le Koweït, qu'on attaque les Émirats arabes unis, qu'on attaque Oman, autant de pays où, en fait, il y aurait le grand avantage pour le Canada de pouvoir être attaqué uniquement avec l'armée canadienne, puisque c'est des pays minuscules avec une armée minuscule. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces pays ont des régimes qui sont, en fait, l'équivalent moral et politique des talibans. Okay? Et là, je ne parle même pas des femmes. En Arabie saoudite, par exemple, vous n'avez pas de parti d'opposition, vous n'avez pas d'assemblée législative, vous n'avez pas le droit de manifester dans la rue, vous n'avez pas le droit de quoi? Vous n'avez pas le droit de rien à faire. Vous avez, les femmes n'ont pas le droit de conduire des automobiles. Et en fait, la police des mœurs des talibans était en fait une copie conforme. Ils s'étaient inspirés des polices des mœurs d'Arabie saoudite. Okay? Et l'Arabie saoudite, contrairement au président Karzai, les dirigeants de l'Arabie saoudite, évidemment, n'ont même pas daigné faire des simili-élections comme il y a eu en Afghanistan. Et là, on peut évidemment donner le même exemple avec le Koweït et d'autres pays. Or, évidemment, je ne vous apprends rien de faire, la politique étrangère canadienne et la politique militaire canadienne qui justifie l'intervention en Afghanistan par l'obligation morale et politique et humanitaire de vaincre un régime comme les talibans ne va évidemment jamais attaquer l'Arabie saoudite et le Koweït, etc. Il y a une incohérence ici, mais une incohérence évidemment qui révèle qu'en fait ce qui est au fond des motivations du gouvernement canadien et de l'armée canadienne, ce n'est pas en fait de vaincre des régimes autoritaires. Sinon, on serait aussi en Arabie saoudite. Ou si on n'était pas en Arabie saoudite, peut-être qu'au moins, par exemple, les États-Unis ne feraient pas ce qu'ils ont fait il y a 3 mois maintenant, c'est-à-dire allonger 20 milliards de dollars en aide à l'Arabie saoudite pour qu'elle s'achète de l'armement. De libérer le Koweït qui avait été, de façon tout à fait stupide, conquis par Saddam Hussein, en fait, la Maison-Blanche et les États-Unis n'auraient pas remis le pouvoir au Koweït au prince du pétrole. Ils auraient en fait obligé en fait le Koweït à avoir une nouvelle constitution avec des élections. Bref, je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire, mais en tout cas, c'est clair, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas voulu écouter, par exemple, l'opposition démocratique koweïtienne qui était en Angleterre en exil. Ils ont simplement remis le pouvoir au prince koweïtien. Environ 20% de l'ensemble des groupes insurgés, parce qu'en fait, l'ensemble des groupes insurgés, c'est qui? Ça va généralement être des petits paysans, des gens, en fait, qui luttent, prennent les armes contre les Occidentaux parce que leur village a été bombardé, parce que des gens ont été prisonniers, des véhicules sont arrivés en plein milieu de la nuit, sont partis avec le fils aîné, le père, le grand-père, Il y a eu des fouilles abusives. Les gens sont torturés dans les prisons, c'est ce que le président Karzai admet lui-même. Ou encore, c'est des gens qui sont recrutés, puisqu'on est dans le pays le plus pauvre du monde, ça peut être rentable de faire la guerre. Ce sont donc des gens qui, des pauvres, en fait, qui sont recrutés par des milices, soit par des chefs de guerre locaux, soit par les trafiquants d'opium, soit par les talibans aussi. Évidemment, ils sont encore là. Et donc, grosso modo, l'armée canadienne, pour ce que j'en comprends, les gens sur qui elle tire, quand elle tire sur des insurgés, elle tire avant tout sur des pauvres. Ou sur des gens qui veulent simplement qu'il n'y ait pas de soldats étrangers qui fassent la loi et l'ordre dans leur région, dans leur village. Autre argument qu'on va dire, les autres justifications pour expliquer pourquoi l'armée canadienne elle doit être en Afghanistan, c'est instaurer, instaurer maintenant on dit qu'on l'a déjà instauré, donc protéger la démocratie, d'ailleurs il va y avoir des élections en Afghanistan cette année, émanciper les femmes, construire des écoles, et creuser des puits et tout ça, évidemment. Deux choses qu'on peut dire face à l'argument du démocratique président Karzai. La première, c'est qu'il ne faut pas s'illusionner, qu'il ne faut pas en fait plaquer la façon dont le système politique québécois ou canadien fonctionne et qu'on appelle démocratique avec ce qu'on appelle démocratie en Afghanistan. Dans la réalité concrète, le régime de Karzai, qui est à Kaboul, comme vous le savez, contrôle, selon les estimations les plus optimistes, à peu près 30% du territoire afghan. Okay. Et quand on dit contrôle, 30% du territoire afghan, c'est-à-dire qu'il y a ces policiers et ces soldats qui sont là. Ce qui est à peu près, en fait, les seuls représentants du gouvernement central que les Afghans connaissent. Okay? Parce que les autres enjeux liés à la vie locale des gens sont généralement pris en charge par les gouverneurs locaux ou les chefs de clans ou les chefs de région. Donc, il ne faut pas penser là, que les Afghans, depuis qu'ils ont une démocratie et qu'il y a le président Karzai, ont à remplir des formulaires d'impôts de 30 pages comme nous, ont une carte de soleil, ont une carte d'assurance sociale, ont des... Bref. Il n'y a pas d'État providence, il n'y a pas d'État même minimal comme on l'entend au Québec. En fait, ils contrôlent tellement peu de territoire, Karzai, que dans certains milieux diplomatiques, entre autres, on le nomme avec ironie le maire de Kaboul, pour souligner le fait qu'en fait, son fief, la zone qu'il contrôle réellement, c'est Kaboul, c'est la capitale. C'est une des preuves de la crise profonde de légitimité qui affecte le régime Kaboul, c'est en fait le nombre de policiers tués. En 2007, 627 policiers tués, 1050 à peu près blessés. La situation est tellement pénible pour les policiers qu'il y a des policiers qui s'engagent des gardes du corps. C'est un peu comme Montréal-Nord, finalement. Et donc, les policiers ont tellement peur, ce qui est tout à fait légitime, en fait, que, par exemple, ils vont quitter leur poste de police la nuit. Ils ne veulent pas passer la nuit dans leur poste de police. Ils retournent chez eux, ils se cachent parce qu'ils ont peur de se faire descendre. Mais de toute façon, même si Karzai contrôlait plus de territoire et qu'il avait une police plus efficace et une armée plus efficace, est-ce que ça vaudrait la peine alors que l'armée canadienne, par exemple, ou les armées occidentales, protègent son régime? On peut en douter. Selon une féministe afghane, le régime Karzai, je cite, c'est elle qui parle, est contrôlé par les fondamentalistes les plus cruels, misogynes, antidémocrates et réactionnaires, et par des distingués trafiquants de drogue. Qui, comme allié à défendre, est quand même un peu bizarre. Je passe sur des exemples de répression, on pourra discuter de ça plus tard. Mais c'est clair, c'est que la plupart des personnes clés, en fait, dans le régime Karzai, les ministres ou les gouverneurs importants ou les chefs d'unités militaires, commettent des exactions. Des fois, ils ont même leur milice privée, ou, en fait, ont un passé très trouble dans les années 90, pendant la guerre civile. Ils étaient la plupart des chefs de milice qui ont commis des massacres, de la torture, des viols de femmes en masse. Et encore aujourd'hui, par exemple, ils vont forcer des familles à ce que leurs filles épousent un de leurs lieutenants ou les épousent eux-mêmes. Les femmes, en fait, dans des entrevues par des groupes féministes en Afghanistan dans les prisons, on se dit « En fait, je suis mieux en prison que chez moi. C'est moins risqué. » Émanciper les femmes, outre les faits évidemment que pendant 20-30 ans, la Maison-Blanche du Canada s'est complètement foutue des femmes afghanes, c'est qu'en soi, on entend beaucoup peu les femmes afghanes elles-mêmes. C'est des hommes, c'est Bush par exemple, ou Stephen Harper, que je n'avais jamais considéré jusqu'à maintenant comme un défenseur des femmes ou du mouvement féministe, qui se lèvent et disent « Nous, on est en Afghanistan parce qu'il ne faut pas abandonner les femmes afghanes. » Alors moi, j'ai quelques citations de femmes afghanes. Et évidemment, on est dans un pays en guerre civile depuis 30 ans, donc il est très certainement possible de trouver des femmes afghanes qui sont pour la présence des troupes occidentales en Afghanistan. D'ailleurs, j'aurais dû vous le dire au départ, il y a évidemment des Afghans qui sont pour la présence des armées canadiennes et des États-Unis, etc. en Afghanistan. Le président Karzai en premier, parce qu'il sait bien qu'il ne pourrait pas durer très longtemps sans nous. Mais il y a aussi des femmes qui sont pour cette présence, mais il y a des femmes qui sont beaucoup plus critiques. Et en fait, à la fameuse question, est-ce que c'était mieux pour les femmes, est-ce que c'est mieux maintenant pour les femmes que sous le régime Karzai, que sous le régime des talibans, pardon, il y a beaucoup de femmes afghanes qui disent que c'est une question d'occidentale, c'est une question mal posée. C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Il y a eu des améliorations, droit de vote, à peu près 10-15% des femmes l'ont échappé dans certaines régions, aller à l'école, même si c'est des régions où il n'y a personne qui va à l'école ou pas de filles qui vont à l'école. Évidemment, quand vous êtes dans des camps de réfugiés ou quand votre village a été bombardé, aller à l'école ou voter, c'est peut-être pas la priorité. Mais les femmes vont dire aussi, comme Alama, cette afghane, elle va dire, je cite, « Il y a eu très peu de changements pour nous depuis la chute des talibans. Ils continuent de parler de nous libérer du voile et de la burqa. » La burqa, c'est l'espèce de tente. La réalité, c'est que ce n'est pas là notre problème. Le problème, c'est le manque de sécurité, le manque d'emploi, le manque d'éducation et de soins de santé. Une autre afghane, Farida, dira, tout ce que j'entends depuis la chute des talibans, c'est voile, 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 burqa, burqa, burqa. Pourtant, mon problème, ce n'est pas le voile. Mon problème, c'est que je n'ai pas de nourriture pour nourrir mes enfants et pour me nourrir moi-même. Et une auteure iranienne, Rostami Fovi, qui a écrit le livre sur les femmes afghanes dont je viens de tirer les citations, dit, elle, en conclusion, les femmes sont victimes d'un État, le régime Karzai, qui a dirigé son attention vers la militarisation plutôt que le logement, la santé, l'éducation, les infrastructures et le bien-être. Les femmes auraient donc, selon plusieurs observatrices, ce qu'elles ont appelé des droits de papier. C'est-à-dire qu'elles ont des droits sur papier, mais dans la réalité, elles ont peu de droits ou pas de droits, ou pas plus de droits que sous les Afghans, que sous les talibans. La première chose qu'on peut répondre, c'est qu'en fait, il semble y avoir une sorte de mensonge, ou en tout cas un argument fallacieux, ou vaguement faux, sur cette volonté qui serait la volonté première qui serait d'apporter de l'aide humanitaire en Afghanistan, et que l'armée n'est là que de façon secondaire pour aider cette aide humanitaire à arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde le budget alloué à l'aide humanitaire au Canada, là, je parle au Canada, par le Canada en Afghanistan, et le financement de l'armée canadienne en Afghanistan, évidemment, les chiffres sont démesurés. C'est plus que du 10 pour 1. 10 pour l'armement et 1 pour l'humanitaire. Mais évidemment, on va me dire, ouais, mais ça coûte beaucoup plus cher un char d'assaut, par exemple, qu'une école. Surtout une école en Afghanistan, c'est une espèce de boîte de briques, là, où les gens sont assis par terre, ça coûte pas très cher. L'îlot voyageur de l'UQAM a comparé à ça, c'est même dans son état actuel, c'est même utile. Et donc, on va dire, oui, mais vous ne pouvez pas faire une comparaison, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Mais justement, les Afghans n'ont pas de pommes et d'oranges. Ils n'ont pas de pommes et d'oranges parce qu'en fait, même l'aide humanitaire, à part certains projets très ponctuels, okay, même l'aide humanitaire du gouvernement canadien qui transite par l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, elle va où? Elle va en fait à la formation de l'armée et de la police afghane. Donc, l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, qui est l'agence officielle canadienne qui coordonne, en fait, l'aide humanitaire du gouvernement canadien, okay, a été, d'une certaine manière, on pourrait dire, vampirisée par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense pour, en fait, venir justifier la guerre en Afghanistan. Et, en fait, les ressources de l'ACDI, en ce moment, sont en grande majorité comme concentrées vers l'Afghanistan, mais c'est une aide militaire tout à fait bizarre qui vient, en fait, à part quelques projets très ponctuels là, qui relèvent plus de l'humanitaire réellement, comme la construction d'un barrage, des choses comme ça, vient en fait aider le gouvernement Karzai à former son armée et ses policiers. Joseph Giguère, que je connais absolument pas, mais qui dit être un ex-coopérant, en fait quelqu'un qui a déjà fait de la coopération pour le compte du Canada, il considère, je cite, en fait répondant de façon rhétorique à l'argument là, qu'il faut en fait des militaires pour aider l'humanitaire, selon Joseph Giguère, il dit, au contraire, et ça revient un peu à ce que l'Italien disait tout à l'heure, au contraire, la présence militaire crée un rapport qui rend, avec la population afghane, qui rend impossible le véritable travail humanitaire et de reconstruction. Pourquoi? Il dit, parce que chaque rafale de mitraillette, chaque assaut blindé, chaque roquette empire et envenime la situation, faisant monter le niveau de violence. A-t-il une solution? Il a une solution. Si on mettait autant de milliards de convictions, d'astuces stratégiques, de forces diplomatiques, de génie de négociation, d'énergie de persuasion auprès des pays partenaires, du gouvernement afghan et de ses voisins pour développer en Afghanistan une vaste mobilisation humanitaire, en ayant sur le terrain des milliers et des milliers d'ONG, de projets d'éducation, de développement et de prise en main locale, qu'on en met pour l'œuvre militaire aujourd'hui, cela ne serait-il pas une bonne façon de remplir notre devoir de responsabilité et de solidarité auprès du peuple afghan et peut-être même de contribuer un peu à changer la face du monde?